Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue aujourd'hui. Une assiette d'algues et de concombres de mer, est-ce que ça vous dit? Bien, la table bioalimentaire de la Côte-Nord veut mettre en valeur les trésors maritimes de la région.
Nous, ce qu'on veut, c'est faire connaître les ressources, faire en sorte que les gens les mangent et soient informés de ça. On pense qu'il y a de la place pour que ces produits-là émergent.
Un premier musée de l'aluminium prend racine à Shawinigan, au Québec.
Il semble que ça va de soi, que c'est dans cet endroit-là où le premier lingot d'aluminium a été coulé au Canada. Tenir un musée sur l'aluminium. Il n'y a pas de meilleur endroit.
Le Beluga Ultra Trail attire près de 1200 coureurs dans les séduisants paysages de la Côte-Nord.
Tadoussac, c'est une perle, tout simplement. On a été charmés dès qu'on a mis les pieds ici pour la première fois, lorsqu'on s'est dit que c'était le moment peut-être d'essayer de faire une course.
Le courrier de la Nouvelle-Écosse est honoré au gala annuel du Réseau Presse à Ottawa.
C'est une compétition qui reconnaît le travail de la presse francophone en situation minoritaire à travers tout le pays. C'est un moment assez unique pour mettre de l'avant nos forces vives, qui sont principalement nos journalistes.
Et le rideau tombe sur la 50e édition du TIFF de Toronto. Annette Minka nous parle de deux films qu'elle a vus.
J'ai vraiment pas de conseils à donner à un grand festival qui fête son cinquantenaire aujourd'hui. Et ils ont déjà tout vécu, tout fait. Je suis fier d'être là et vraiment on remercie le TIFF.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Salut à tous et à toutes et bienvenue encore à Point de vue. Merci d'être là. Boris Chassagne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Nos journalistes de l'IGL vont se joindre à moi et vous parler des trésors de la mer, de métaux aux couleurs de guerre tarifaire, de courses et de cinéma. On lance le bal à Shawinigan au Québec. Eh bien, ça y est, c'est officiel. Le premier musée canadien de l'aluminium en Amérique va s'y déployer au cœur de la cité de l'énergie de Shawinigan. La première des deux phases du projet sera d'ailleurs inauguré en 2026. Le musée sera construit autour des anciennes salles de cuves et bâtiments patrimoniaux de la première aluminerie du Canada. Ce musée canadien de l'aluminium des Amériques sera l'un des plus importants dédiés à l'industrie métallurgique dans le monde. Robert Savard nous a préparé ce qui suit.
La première aluminerie au Canada, située à Shawinigan, reprendra du service dès l'été 2026. Déjà lieu historique national au Canada et immeuble patrimonial au Québec, l'ancienne aluminerie est reconnue pour son rôle majeur dans les débuts de l'industrie de l'aluminium et de l'hydroélectricité au Canada. Les anciennes salles de cuve, couvrant une impressionnante superficie de 2142 mètres carrés, vont abriter le Musée canadien de l'aluminium, premier musée portant sur l'aluminium en Amérique. Le projet est parrainé par la Cité de l'énergie de Shawinigan et sa directrice générale Sandy Letendre. Muséologue de formation, elle travaille sur ce projet depuis plusieurs années.
C'était vraiment une priorité depuis mon entrée en poste, finalement, à la fin 2018, début 2019, de mettre en valeur ces bâtiments-là. Puis après avoir exploré plusieurs idées, celle du Musée canadien de l'aluminium, en fait, était la plus logique, intéressante. Il me semble que ça va de soi que c'est dans cet endroit-là où le premier lingot d'aluminium a été coulé au Canada doit tenir un musée sur l'aluminium. Il n'y a pas de meilleur endroit.
Plusieurs organisations d'un peu partout au Québec et au pays sont sollicitées pour participer à ce projet d'envergure dans la région de Saguenay, pour notamment le prêt d'artefacts.
On va collaborer avec plusieurs musées et plusieurs institutions dans le cadre du projet, que ce soit pour le prêt d'artefacts, entre autres, ou pour développer certains contenus. Puis, on va collaborer de près, effectivement, avec Arvida, qui vont nous fournir certains équipements, machinerie, entre autres, pour l'exposition. Puis, bien sûr, on bénéficie, nous, de l'accompagnement là, de notre directrice du comité de recherche externe, Lucie Comorcette, qui, elle-même, est conseillère scientifique à la ville de Saguenay, et qui travaille beaucoup avec Arvida, justement, pour toute la mise en valeur du patrimoine industriel aluminier. Donc, on a une ligne directe, là, finalement, avec eux aussi pour collaborer. Donc, ça va de soi. C'était le complexe aluminier le plus important là au Québec qui s'est développé là après Shawinigan. Donc, ça fait partie, effectivement, des institutions avec lesquelles on collabore.
Le déploiement du projet se fera en deux phases. La première proposera dès juin 2026 une visite animée. Cette activité fera découvrir l'ancienne aluminerie à travers trois expériences. La deuxième phase sera déployée dès l'été 2027.
c'est pas une date qui est coulée dans le béton encore ou coulée dans l'aluminium, mais pour juin 2027, on espère pouvoir déployer la phase 2, qui va être finalement l'entièreté de l'offre du musée, donc toute l'exposition permanente qui va porter là sur l'hydroélectricité, aussi les humains à l'œuvre, donc les travailleurs des alumineries, tous les procédés, les techniques, les technologies qui ont évolué à travers le temps. Une exposition aussi de multitude d'objets là, sur différents thèmes fabriqués en aluminium. Donc, c'est là qu'on va vraiment occuper là, les 2200 quelques mètres carrés d'exposition avec la phase 2.
La production d'aluminium, qui représente encore aujourd'hui un pan très important de l'industrie canadienne, a vu le jour dans l'ancienne aluminerie de Shawinigan où le premier lingot a été coulé en octobre 1901. Robert Savard, IGL, Shawinigan. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
On quitte les cuves et les briques anciennes de la Cité de l'énergie pour prendre le grand air. Là, on est sur la Côte-Nord, toujours au Québec, là où 1200 athlètes ont participé à la 6e édition du Beluga Ultra Trail. Le 13 septembre dernier, ils se sont régalés des fantastiques paysages de la région tout en amassant des fonds pour la protection du Beluga. Ils ont traversé les sentiers du Parc national du Fjord du Saguenay, de Tadoussac et du Sacré-Cœur. L'objectif étant de se mettre en forme, bien sûr, de relever des défis, oui, de se dépasser certainement sur des parcours de 1,5 km à 40 km pour les plus endurants, mais aussi ils étaient là pour lever des fonds. 25 000 $ ont été levés pour cette cause au cours des 6 dernières années. Maxime Jaudoin en parle avec Mme Maxime Drolet, responsable des communications pour le Trail Saglac.
C'est une 6e édition exceptionnelle en ce moment. La température est parfaite. Les coureurs ont beaucoup de plaisir sur les sentiers. On a déjà 2 records de parcours qui ont été faits chez les hommes aux 45 km et aux 30 km. Donc, on peut considérer que c'est une très, très bonne 6e édition. Ça prend beaucoup de temps. Il y a une énorme équipe de super bénévoles derrière ça qui travaillent sur le Beluga Ultra Trail à l'année longue. Et on n'y arriverait pas sans eux. C'est tout simplement c'est ça. Mais 6e édition, on commence à être bien rodés. De moins en moins de problèmes. On est de plus en plus habitués à gérer les petits soucis ici et là. Donc ça va extrêmement bien en ce moment-là. On a eu des commentaires très positifs cette année. Apparemment, le sentier est extrêmement sec, ce qui a probablement mené au record de parcours. On le sait, dans ce temps-là, un petit peu moins, les gens sont moins prudents parce qu'on peut se le permettre. C'est un parcours, comme on a déjà dit, qui est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils ont vu des bélugas aujourd'hui aussi en courant. Donc, toujours des commentaires super positifs là, pour, encore une fois, la 6e édition. Tadoussac, c'est une perle, tout simplement. On a été charmés dès qu'on a mis les pieds ici pour la première fois, lorsqu'on s'est dit que c'était le moment peut-être d'essayer de faire une course. Moi, je trouve que le charme que Tadoussac apporte à la course, c'est vraiment quelque chose d'unique. On nous dit souvent que c'est une course qui est très familiale, que l'ambiance est extrêmement conviviale, et je pense que Tadoussac y est pour beaucoup, là. Avec cette année, on va avoir remis 25 000 $ pour la recherche, donc aux graines directement. Donc pour nous, c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers. Mais c'est aussi la fierté de tous les athlètes qui ont participé aux différentes distances au cours des années au Beluga, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu remettre ces montants-là aux graines. Mais le Beluga, en fait, c'est notre raison d'être. Hein? C'est notre nom, c'est le nom de notre course. Et sans ça, on serait pas ici aujourd'hui, puisque durant tout le parcours, les athlètes vont suivre en fait le chemin migratoire des Belugas dans le Saint-Laurent. Donc au final, nous, ça nous permet juste de transmettre notre passion de la protection et de la conservation de la nature aux athlètes. Ça les sensibilise souvent à des causes qu'ils ne pensaient pas nécessairement qu'ils pouvaient avoir un impact.
Et Eh bien, avez-vous déjà goûté aux oursins, aux concombres de mer ou encore aux algues de la côte nord? Ces richesses maritimes sont rarement présentées dans nos assiettes et certains diront certainement que c'est peut-être tant mieux, mais il reste qu'elles sont au cœur d'une nouvelle initiative portée par la table bioalimentaire de la côte nord. 10 cours documentaires d'une quinzaine de minutes seront produits pour en vanter les mérites et un numéro spécial du magazine Le goût de la côte nord viendra également compléter cette démarche de valorisation, celle que Martin-Pierre Tremblay, directeur général de la table bioalimentaire Côte-Nord, porte avec plaisir. Au-delà des produits de la mer, l'initiative espère faire valoir les talents et l'initiative des pêcheurs locaux, notamment ceux du village de Tête-à-la-Baleine, qui perpétuent un savoir-faire précieux. Marie-Ève Dussablon en parle avec Martin-Pierre Tremblay, directeur général de la table bioalimentaire Côte-Nord.
Avez-vous déjà goûté aux oursins, aux concombres de mer ou même aux algues de la Côte-Nord? Une nouvelle initiative de la table agroalimentaire de la Côte-Nord veut mettre en valeur ces trésors bioalimentaires maritimes encore trop méconnus et qu'on retrouve rarement dans nos assiettes. Ce sont 10 cours documentaires d'une quinzaine de minutes ainsi qu'un numéro spécial du magazine Le goût de la Côte-Nord qui vont nous permettre de les découvrir. Martin-Pierre Tremblay, directeur général de la table bioalimentaire Côte-Nord, nous explique.
Quand on parle des algues, des oursins, puis en Asie, c'est déjà très installé tout ça. Puis nous, ce qu'on veut, c'est faire connaître les ressources, faire en sorte que les gens les mangent puis soient informés de ça. Puis éventuellement, tu sais, il y a des pêches expérimentales, entre autres, je dirais, pour le concombre de mer. Il y a des pêches d'oursins aussi, mais c'est des petites pêches, c'est pas des des grosses exploitations. Puis ça dépend toujours de la biomasse, ça dépend toujours du volume qu'on a dans nos eaux. Mais on pense qu'il y a de la place pour que ces produits-là émergent.
Ces 10 films seront aussi présentés cet automne dans les 6 MRC de la région. Des personnes clés du projet seront aussi sur place pour répondre aux questions du public. En plus des produits marins, l'équipe a choisi de mettre en lumière les pêcheurs locaux, notamment ceux de Tête-à-la-Baleine.
On veut quelque part entendre des histoires vraiment le fun de ces gens-là, puis saluer puis honorer la pêche commerciale en Côte-Nord. C'est important au niveau économique, mais c'est important au niveau social aussi. C'est au cœur même de l'établissement de certaines collectivités sur la Côte-Nord, puis on veut saluer ça, puis on veut montrer les belles choses qui se font en pêcherie commerciale.
Le projet s'attarde aussi à la part de la nation Innue dans la pêche commerciale, mais aussi dans sa dimension culturelle.
Pour la table bioalimentaire, c'est pas juste les pêcheurs des Premières Nations qui sont importants. C'est les membres des Premières Nations, tu sais, dans le fait que l'aventure du bioalimentaire sur la Côte-Nord, c'est d'abord, elle vient puis elle a commencé avec eux. Puis aussi de saluer le fait que désormais, la pêche commerciale sur la Côte-Nord, puis l'apport Innu là-dedans, il est incontournable. Mm-hmm. On pense à des organisations comme AMIC, qui regroupent quand même plusieurs communautés qui font la pêche. D'autres entreprises de pêche qui sont menées puis conduites par des Innu, on est très, très fiers de ça. La table bioalimentaire, c'est quelque chose de très important.
L'un des grands souhaits de Martin serait également de voir notre région se doter des infrastructures nécessaires pour mieux s'approprier nos ressources.
Une part de ces volumes-là s'en vont à l'étranger, mm-hmm. Aux États-Unis, un peu partout. Donc, c'est une opération commerciale. Nous, on souhaiterait que ça soit plus disponible à large là, sur la Côte-Nord. Puis, on pense que le consommateur a un rôle à jouer là-dedans, en le demandant, puis les restaurateurs aussi ont un rôle à jouer, en mettant au menu des produits, des bioproduits marins régionaux. Bien, peut-être que ça forcerait un approvisionnement un petit peu plus régulier. Là.
Les dates de présentation des capsules seront annoncées bientôt, ainsi qu'un site web entièrement dédié à l'initiative. Ici Marie-Ève Dussablon pour l'IGL, à Tête-à-la-Baleine.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassaigne.
Non. Notre journaliste torontoise Annette Minka n'avait pas les yeux tournés vers les fonds marins, mais bien vers le 7e art. Elle s'est rincé les yeux et les oreilles au TIFF, dont la 50e édition s'est conclue le dimanche 14 septembre dernier à Toronto. Tapis rouge, vedette à gogo, le nec plus ultra du 7e art avait convergé vers la ville reine. 12 films ont été primés. Le très convoité prix du public a été décerné à la cinéaste chinoise Chloé Zhao pour Amnet, une adaptation du roman de Maggie O'Farrell qui relate les événements entourant la mort tragique du fils de William Shakespeare. Annette, qui avait fait sa liste et qui a assisté à une foule d'avant-premières, dont celle de Deux pianos d'Arnaud Desplechin et qui sortira en France le 15 octobre. L'acteur François Civil y incarne Mathias, un pianiste qui retrouve en France son amour de jeunesse, Claude, joué par Nadia Thérèse Kuitz. Ensemble, ils décrivent cette passion retrouvée comme un amour désormais impossible. Annette Minka, qui a aussi vu le film Dia, venu représenter le cinéma nord-africain, un film lui aussi présenté en avant-première nord-américaine, réalisé par Achille de Ronaimou, un cinéaste du Tchad. Ce thriller coup de poing raconte l'histoire de Dan, chauffeur pour une ONG humanitaire à N'Djamena, dont la vie bascule après un accident tragique. Le film explore le poids de la perte et les conséquences d'une pratique ancienne mais controversée qu'on appelle la DIA, qui signifie le prix du sang. Annette Minka.
Le film DIA représente dignement le cinéma francophone africain. Ce thriller implacable est signé par le réalisateur tchadien Achille Ronaimou, pour qui c'est le premier long métrage.
Ça s'appelle DIA, le prix du sang, ça parle de la vendetta, ça parle de la vengeance, ça parle de la compensation financière qu'il faut à une famille qui a subi une perte.
Une perte, en effet. Dan, interprété par Ferdinand Mbaïsané, lauréat du prix d'interprétation masculine au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2025, est chauffeur pour une ONG humanitaire à N'Djamena. Il mène une vie paisible avec sa jeune épouse Delphine, enceinte de 8 mois. Chaque jour, Dan parcourt les rues animées de la ville à bord de son 4x4. Une faute d'inattention, un portable qui sonne au mauvais moment, un garçon qui traverse la route trop rapidement et c'est l'accident. Cette histoire haletante a immédiatement séduit Issa Serge Coelho, qui a décidé de coproduire le film.
Pourquoi ? Parce que c'était déjà une bonne histoire et c'est une histoire qui me touche aussi personnellement parce que j'ai vécu ce qu'il raconte dans le scénario. C'est une pratique qui est encore courante au Tchad et on est tous concernés en ce sens-là. On a fait ce film-là pour... pas pour dire arrêtons de faire ça, évoluons un peu pour adopter d'autres valeurs. On l'a fait dans un style un peu divertissement pour non seulement attaquer ces pratiques, mais aussi démontrer de façon un peu maligne que c'est de l'escroquerie, finalement, tout ce système qui est mis en place et entretenu depuis très longtemps.
La pratique dont Issa Serge Coelho parle est la DIA, le prix du sang dans la tradition islamique et au Tchad, une compensation financière versée à la famille d'une victime d'homicide pour éteindre le conflit et éviter la vendetta. Dans l'est du Tchad, les conflits intercommunautaires ont poussé les autorités à réglementer cette pratique. Bien qu'ancienne, la DIA divise aujourd'hui la société tchadienne. Cette tradition est la toile de fond de ce film engagé que le producteur espère voir toucher les cinéphiles nord-américains et les inviter à réfléchir sur certaines réalités africaines.
On aimerait qu'ils retiennent que le film leur a plu, le sujet a été bien, qu'il y a quand même des belles choses au niveau cinématographique. Et au-delà, notre message, c'est de dénoncer ces pratiques-là qui existent et qui survivent toujours en Afrique. Et nous sommes tous, en tout cas, on est convaincus que ça n'a plus lieu d'être en 2025.
Et à la question de savoir si le TIFF devrait produire plus de films francophones venus d'Afrique, Achille Ronaimou y voit une superbe occasion de rendre le cinéma tchadien visible sur la scène internationale.
Oui, déjà, le Tchad, vous voyez, très, très isolé. C'est un pays de l'Afrique centrale. Donc, il n'y a pas du tout une visibilité sur ce pays. Et le faire connaître à travers le monde, à travers ce film, il n'y a pas une occasion plus précieuse que celle-là. Donc, nous aimerons bien qu'à travers nos histoires et notre culture, ils puissent un peu parler du Tchad, en fait.
Quant à Issa Serge Coelho, il se dit déjà reconnaissant d'être ici cette année.
Moi, je suis pour la compétition à 100%. Je n'ai pas envie qu'on ait un ghetto du cinéma africain qu'on met dans les festivals exprès pour nous. Je trouve ça pas cohérent et ce n'est pas productif. Donc, à chacun sa chance et le meilleur l'emporte. Je préfère ça. Et j'ai vraiment pas de conseil à donner à un grand festival qui fête son cinquantenaire aujourd'hui. Et ils ont déjà tout vécu, tout fait. Donc c'est pas nous avec nos petites idées venant d'un petit pays, cinématographiquement parlant, hein. Et voilà, je suis fier d'être là et vraiment on remercie le TIFF.
C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Bonjour, ici Sébastien Caron à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Le courrier de la Nouvelle-Écosse n'est pas revenu les mains vides du dernier gala des prix d'excellence de la presse francophone 2025 qui se tenait à Ottawa. Le courrier de la Nouvelle-Écosse est sorti grand gagnant de ce gala organisé par le Réseau Presse. On lui a remis le prix du projet spécial imprimé de l'année et d'article communautaire de l'année. Le prestigieux titre de journal de l'année a quant à lui été décerné à l'Aurore boréale au Yukon. Nicolas Jean, directeur général du courrier de la Nouvelle-Écosse, est ici au micro de Daniel Aucoin à Chéticamp.
Nicolas, bonjour.
Bonjour Daniel.
Dis-nous d'abord, comment important que sont, comme ça à chaque année, les prix d'excellence de la presse francophone? Qu'est-ce que ça représente pour les journaux?
C'est quelque chose de vraiment important parce que c'est une compétition qui reconnaît le travail de la presse francophone en situation minoritaire à travers tout le pays. C'est un moment assez unique pour mettre de l'avant nos forces vives, qui sont principalement nos journalistes, qui sont dans la salle de nouvelles et qui écrivent les nouvelles, les éditos, etc. Et puis c'est aussi une façon de reconnaître tout le travail qui est fait en parallèle du travail journalistique, que ce soit des publications spéciale, que ce soit la présence numérique ou encore la qualité graphique d'un journal. Donc c'est très important parce qu'on est un petit peu isolé parfois, on se sent un peu isolé parfois dans nos communautés, parce qu'on travaille tous en région et c'est une façon de reconnaître le travail à une plus grande échelle, à l'échelle du pays, puisque tout le monde est présent au gala des prix d'excellence, on a des dignitaires qui sont là. On avait le sénateur Alistair Surette, par exemple, qui était présent vendredi dernier. Donc c'est une belle façon de donner de la motivation et de l'élan à une équipe en reconnaissant son travail.
Nicolas, parle-nous un peu des deux prix qui ont été remportés cette année par notre journal, le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Oui, bien sûr. Le premier prix, ça a été un prix qui a reconnu l'article communautaire de l'année qui a été écrit par Jean-Philippe Giroux, qui est un article qui parle de patrimoine acadien et comment ça se passe quand on veut défendre le patrimoine acadien, qui est un article extrêmement intéressant. J'étais très content qu'il soit mis de l'avant parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas eu de prix pour une chose éditoriale. Et puis ça a été le cas vendredi soir et c'est très, très bien aussi parce que ça met de l'avant le patrimoine acadien. L'Acadie reste malgré tout méconnue pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes à travers le pays. Donc c'était l'occasion de mettre ça de l'avant. Puis le deuxième prix, c'était pour la publication imprimée de l'année. Et c'est notre magazine d'affaires acadien et francophone Avant-Garde qui s'est distingué. Donc ça, on est très, très content aussi parce que c'est la première fois qu'on lance ce magazine qui est assez pionnier en Nouvelle-Écosse. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. C'est aussi un magazine bilingue. Et puis, je tiens à préciser que Yvette Como a été une des pionnières par rapport à la réalisation de ce magazine. Donc, je tiens à la remercier aussi pour son beau travail. Ce prix lui revient de droit.
Comment important qu'est justement le courrier de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui pour assurer la préservation, la langue, la culture francophone dans nos communautés?
Ben, je pense que c'est essentiel, c'est un pilier. Juste avant la cérémonie des prix d'excellence, on avait 2 jours de rencontres avec le Forum des voix locales organisé par le Consortium des médias de langue officielle en situation minoritaire. Et je crois que tout le monde était d'accord sur le fait que, oui, préservation de la langue, préservation de la culture, de l'identité. Mais aujourd'hui, en 2025, ça va bien au-delà. On est tous des acteurs du développement économique, des acteurs de l'éducation pour la plupart. On contribue activement à la relève. On est aussi des leviers pour l'immigration. On embauche tous des personnes qui sont issues de l'immigration. Donc on a un rôle, je dirais, qui est presque holistique, excusez-moi le mot, mais qui représente toutes les facettes de nos communautés, des besoins de nos communautés. Évidemment, chaque média est différent puis décide de s'impliquer à la hauteur de ce qu'il est en mesure de faire. On a des médias où il y a qu'une seule personne qui travaille, puis d'autres où il y a 20 employés à temps plein. Donc on a tous des réalités différentes, mais je crois qu'on est des leviers communautaires à tous les niveaux, potentiellement.
Alors Nicolas Jean, je rappelle que tu es directeur général du journal Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Tu nous parlais justement de ces 2 prix remportés par Le Courrier. Prix d'excellence projet spécial imprimé de l'année et prix d'excellence pour l'article communautaire de l'année. Merci beaucoup et bonne suite des choses.
Merci beaucoup, Daniel.
Depuis sa création en 1976, Réseau Presse est le seul réseau pan-canadien de journaux de langue française desservant la population franco-canadienne en situation minoritaire. Ces journaux MOB atteignent chaque année plus d'un million de francophones et de francophiles de partout au pays, assurant la préservation de la langue et de la culture francophone dans des communautés souvent sous-représentées. Ici Daniel Aucoin pour IJL HTK.
C'est tout pour nous cette semaine. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à nos journalistes Daniel Aucoin, Annette Minka, Marie-Ève Dussablon, Maxime Jaudoin et Robert Savard, rédacteurs nationaux Julia Chénu et moi-même, Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire, l'initiative de journalisme local et votre radio, oui, celle que vous écoutez. Merci encore d'avoir été là. Prenez soin de vous et des autres. Et à la semaine prochaine. Ciao!
Yeah. radio@fréquenceinfo.ca.